Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices engagés dans les questions de l'écologie et de solidarité à Marseille. Nous sommes en direct ce mercredi 6 juillet 2022 et nous serons en direct de 19h à 20h. L'émission sera diffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Je suis Chloé et je suis accompagnée ce soir de Marin qui est en régie, de Anne et Arthur qui sont en studio avec moi.
Bonjour.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le Curiosity Club de Marseille avec Johanna. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Bienvenue à toi. Donc ce soir, nous recevons avec un immense plaisir le Curiosity Club de Marseille. Alors à l'origine, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce club, en fait, il y a le French Curiosity Club qui a été créé en 2015 par Margot Hammer à Paris. C'est un club qui a pour ambition en fait de donner la parole à des femmes inspirantes et inspirées, à une communauté engagée autour d'une valeur commune, le pouvoir de la curiosité. Et ces événements sont organisés sous forme de déjeuner, de soirée une fois par mois, mais Johanna va nous en parler tout à l'heure. Et en fait, le French Curiosity Club est organisé en réseau de clubs, avec chacun leur équipe locale. Et ils sont présents dans différentes villes en France, à Paris, Bordeaux, Caen, Lille, et puis aussi dans le monde, comme Bruxelles, Casablanca, Londres, Milan, et même en Inde, à Mumbai, et depuis 2019, à Marseille. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de recevoir le Curiosity Club de Marseille, qui a été fondé en fait sous l'impulsion de toi, Johanna, il y a quelques années. Alors est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas, et puis te présenter la genèse de l'implantation de ce club à Marseille ?
Oui, alors donc Johanna Brown Falzi. Donc le Curiosity Club a été créé donc sur Marseille, donc je l'ai créé, on est quatre en tout, en 2019. Moi, en fait, j'ai un parcours, disons que j'ai 10 ans d'expérience en entreprise. J'ai fait une formation d'école de commerce, donc assez classique, assez généraliste. Et j'ai pu, j'ai pas beaucoup voyagé, en fait. J'ai toujours été assez curieuse de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. J'avais au départ pour ambition de travailler à l'étranger. Et ça s'est pas fait. Finalement, après diverses expériences, je suis revenue sur Marseille il y a à peu près 10 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, notamment dans une entreprise assez connue à Marseille, qui est Bourbon Offshore, donc un armateur. J'ai travaillé donc 6 ans chez eux sur du déploiement d'outils. Et j'ai pu, du coup, grâce à cette expérience, de nouveau voyager au travers des filiales qu'ils avaient un peu partout dans le monde. Et de fil en aiguille, j'ai continué un peu mon parcours dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, en fait, je suis dans un cabinet de conseil. Et je m'occupe donc de vente de prestations, tout ce qui est formation de management, tout ce qui est coaching aussi. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à la genèse aussi d'avoir fondé en fait le Curiosity Club sur Marseille, c'est que dans les ressources humaines, qu'est-ce qui compte aussi, c'est de s'intéresser à l'autre, valoriser les compétences, valoriser donc les collaborateurs dans une entreprise, en fait, faire en sorte que les personnes soient au bon endroit au bon moment. Et du coup, moi, j'avais aussi envie, à côté de pouvoir créer surtout des événements. Et en fait, c'est une amie à moi qui m'a parlé donc, du Curiosity Club sur Paris, qui m'a dit « Jojo, c'est pour toi, toi qui adore mettre en avant les femmes, qui adore organiser des événements, parce que ça, j'adore ça, qui est assez curieuse, ça va te plaire, donc regarde si ça n'existe pas sur Marseille. » Donc ça n'existait pas sur Marseille, je me suis dit « Ah ben banco, allez, c'est parti, pourquoi pas le créer ?» Donc déjà, je suis allée à Paris, j'ai rencontré Margot, donc du coup, qui nous a parlé un peu de son projet, qu'elle a créé en 2015, qui a fait des petits un peu partout dans toutes les villes. Et quand du coup, je l'ai rencontrée, puis qu'on a participé à un de ces événements, tout de suite, on a pu voir plus concrètement ce que c'était. Et on s'est dit, super, allez, on va le faire sur Marseille. Donc du coup, j'ai démarché une équipe qui est toujours en place aujourd'hui. Donc il y a Patricia, il y a Amandine, il y a Laureline aussi, et on a toutes des profils un peu différents, avec des compétences différentes, ce qui fait que ça fonctionne bien et on fait des événements qui plaisent bien.
Et oui, qui plaisent bien, parce que moi, on s'est rencontrés sur le dernier événement à Marseille, je crois que c'était le
14 juin,
oui, où c'était une journaliste reporter de guerre qui était venue témoigner son récit au Bunker des Calanques dans les Goudes. Et c'est vrai que c'était, c'était assez fabuleux, déjà le cadre, mais aussi de pouvoir rencontrer cette femme, pouvoir lui poser des questions, parce que je sais que vous avez à cœur aussi de développer cette proximité en fait, avec les invités, avec ces femmes.
Oui, tout à fait. L'idée, en fait, parce que pour recontextualiser un peu qu'est-ce que c'est que le Curiosity Club, donc en fait, c'est une soirée qui regroupe en fait donc à peu près entre 40 et 50 femmes qui viennent là pour écouter le parcours donc d'une autre femme plutôt inspirante qui est dans un métier pas toujours connu ou un métier plutôt à connotation masculine et qui va venir parler de son parcours pendant à peu près 45 minutes. Et l'idée dans cette soirée aussi, c'est de mettre en avant toujours une association qui est en lien avec le profil, un peu le secteur de la talkeuse, et une artiste aussi souvent qui est là, qui va être créatrice par exemple de vêtements, on en a eu, ou qui va créer des bijoux, enfin voilà, qui est vraiment dans la création et qui peut vendre ses produits. Donc l'idée, c'est de mettre en fait en valeur à chaque fois des
d'autres
parcours,
femmes.
Voilà, d'autres femmes, des associations, et de créer un écosystème en fait autour d'une soirée et de toujours avoir un lieu un petit peu nouveau à chaque fois et qui est en lien avec la femme inspirante qui vient parler de son parcours.
C'est vrai que la dernière fois il y avait Juliette Hers, une photographe sur Marseille qui était venue exposer, et puis aussi par rapport aux traiteurs, enfin c'est à chaque fois des femmes, des entrepreneurs.
Alors on essaie au maximum d'avoir des femmes entrepreneuses, voilà, ouais. qui viennent être, qui sont traiteurs, et jusqu'à présent on essaie aussi de varier, mais on a pu effectivement avoir des traiteurs. Bah, là dernièrement c'est les succulentes qui ont fait deux de nos événements qui sont vraiment super, mais on en a testé d'autres et à chaque fois ça se passe très bien. Et l'idée, ouais, c'est pour la soirée d'avoir de quoi se restaurer, du salé, du sucré et toujours un apéritif. Donc voilà, on a un partenariat avec Lillet. Et du coup, qui est fidèle et avec qui ça se passe très bien. Voilà.
Et au club, vous avez à cœur donc de placer cette créativité au cœur des rencontres, des échanges, de ces discussions entre femmes. Et on sait que les relations sont le terreau et le terrain de la créativité. En 2020, on a été un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu se rencontrer à cause de la situation sanitaire. Mmh. Est-ce que tu as remarqué une envie encore plus forte de se retrouver après cette période justement entre femmes, de se retrouver, d'échanger?
Alors oui, effectivement, on a. Alors c'est vrai que on départ en 2019 quand on a lancé notre première soirée. Donc c'était avec Déborah Pardo des Earthship Sisters que
nous avons reçu à la radio. Oui.
On n'a pas reçu Déborah, mais on a reçu les Sisters.
Voilà, qui a fondé donc cette structure. Et donc du coup, en fait c'était notre première talkeuse, on l'a fait à la Casa de Loz, donc on avait 90 personnes, c'était notre premier événement, wow. Donc franchement on était vraiment très contentes.
Pas mal, 90.
Ouais, franchement, ouais, on s'est donné, on n'a pas lâché, puis en fait au dernier moment on a réussi à avoir un bel article dans La Provence. Et donc du coup, ça nous a bien boosté finalement les ventes qu'on avait, parce qu'autrement c'était principalement notre réseau personnel d'amis qu'on avait mobilisé en fait pour venir.
Oui, donc ça vous a offert une belle visibilité cet article.
Et le lieu aussi a attiré. La soirée s'est très bien passée, on a eu beaucoup de bons retours, et ce qui fait qu'on a pu avoir une première communauté qui s'est créée, et lorsqu'on a fait les événements suivants, on a eu à chaque fois à peu près 40-50 personnes. Puisque la jauge était un peu plus petite, la Casa de Loz permettait d'avoir un beau volume de personnes. Après, on s'adaptait toujours au lieu. Et en fait, une fois, c'est vrai que... Alors, je sais pas vous, parce que tu as participé à l'événement, mais c'est vrai que quand on explique le concept, c'est plus ou moins entendu. Par contre, quand on vient à une soirée, là...
Il faut la vivre.
Exactement, voilà, ouais, c'est ça.
C'est compliqué de s'imaginer... moi, j'avais beaucoup de mal à m'imaginer... qu'est-ce que c'était, comment ça se passait. Ça doit être un cadre très particulier, mais je sais que chaque événement, c'est une expérience, un monde à part, et peut-être que c'est pour ça que tu aimes autant faire des événements, parce que quand on crée un événement, on invente tout un monde, la personne qui vient sait qu'elle va arriver dans un endroit particulier, différent, et elle est ouverte à le nouveau, des nouvelles expériences, des nouveaux récits, des beaux témoignages.
Et oui, et puis à chaque fois, c'est des soirées uniques.
Oui, exactement, oui, puisque l'idée, c'est d'avoir un nouveau lieu. On a souvent une nouvelle thématique. puisque donc après Déborah, on avait eu du coup une Emma Gongora qui était vice-championne de kickboxing. Donc on l'a fait dans son lieu d'entraînement, donc dans une salle de boxe. Donc là, du coup, ça n'a rien à voir. C'est du sport. Donc c'était le jeu, la boxe. Donc une femme qui boxe, c'est quand même... on a plein de préjugés, surtout.
Ça casse les codes.
Et surtout, on a beaucoup de préjugés, on imagine. Et donc, l'idée aussi de ces talks, c'est de donner du contenu sur un métier et puis aussi d'enlever un peu les préjugés qu'on peut avoir sur un milieu, sur un métier. Et avoir la liberté de poser des questions, parce qu'on a toujours un temps d'échange assez long en fonction, effectivement, du contexte. Et de l'inviter. Et l'idée, c'est de poser des questions, d'être libre, en fait, de poser les questions que l'on souhaite et qui ont, sur des moments qui n'ont pas forcément été abordés par l'invité, quoi.
Mais c'est vrai que c'est des invités qui viennent de milieux complètement différents. J'ai vu que ça peut être dans le domaine du sport, de l'art, l'entrepreneuriat, la technologie, la politique, la littérature. Les derniers invités que vous avez eus, donc c'était cette journaliste. Tu nous as parlé d'une boxeuse.
Oui,
une photographe. Oui. Et vous avez reçu qui d'autre pour faire envie à nos auditrices qui voudraient venir pour les prochains événements?
Alors, on a reçu Delphine Citruchet, qui était une ancienne danseuse du Crazy Horse. Donc là aussi, ça me fascine, ça m'a toujours fasciné, le Crazy Horse, les danseuses du Crazy Horse, c'est assez mystérieux. Comme environnement. Et donc, du coup, là, ça a permis de rencontrer une danseuse et d'avoir un peu pas l'envers du décor, parce que voilà comment elle en est arrivée là, le travail que ça a nécessité, son parcours, la rigueur. Et puis voir aussi que c'était une femme abordable, sympathique.
Et comment vous les sélectionnez, entre guillemets, ces femmes? Est-ce que vous avez... est-ce que déjà elles sont uniquement marseillaises, donc du coup, ce qu'on comprend pas forcément? Mais est-ce que c'est des profils qui doivent être un peu surprises, qui doivent sortir de l'ordinaire ou pas forcément? Comment vous les choisissez?
Alors souvent, ça peut être des rencontres qu'on fait lors de nos activités professionnelles aussi, parce qu'on peut être amené à rencontrer des personnes intéressantes et de faire des liens aussi quand on échange. Et souvent, en fait, c'est aussi les personnes que l'on connaît autour de nous qui nous proposent des profils. Qui nous disent « Ah, je connais telle personne, ça peut être extraordinaire ». Après, c'est aussi les journaux ou même les événements auxquels on peut participer, où on rencontre aussi, on voit des personnes s'exprimer, et donc du coup, on se dit « ça pourrait être intéressant de les aborder ». Et puis aussi, nos invités elles-mêmes nous suggèrent des profils.
Voilà. D'accord, donc c'est vraiment du lien.
Ouais, c'est du bouche à oreille, gagnant en notoriété, vos invités viennent à vous, vous venez à eux.
Exactement, après il y en a qu'on a démarché directement, et à chaque fois c'est vrai qu'on est toujours très bien accueillis. Et l'idée toujours à chaque fois, c'est qu'on prend un temps d'échange. En fait, nous, on est privilégiés parce que souvent, on a beaucoup plus d'informations que les talks sont toujours très passionnants. Mais nous, on a eu le temps d'échanger avec ces femmes au moins 2 heures ou 3 heures des fois. Donc, on a encore plus de détails sur leur vie, sur des anecdotes. On pourrait passer des heures à parler avec elles.
Et d'ailleurs, en parlant de l'amont soirée, comment d'ailleurs ça se prépare? Est-ce qu'il y a une trame ou est-ce qu'elles sont complètement libre d'aborder le sujet comme elles le veulent? Comment vous abordez le travail en amont?
Alors oui, on a une trame qu'on leur envoie, en fait une trame assez précise qui les aide à construire leur talk. Et dans l'équipe, donc on est 4, et dans l'équipe, donc il y a Patricia qui est coach, donc c'est son métier certifié et qui exerce depuis plusieurs années. Et donc du coup, dans le métier de coach, il y a aussi toute la préparation à la prise de parole. Par le questionnement, comment construire. Donc elle est là aussi pour celles qui le souhaitent, pour les aider justement à construire le talk. Il y en a qui ont l'habitude, il y en a quelques-unes qui avaient qui ont déjà beaucoup pris la parole et donc qui n'ont pas forcément eu besoin d'être accompagnées, mais pour celles qui le souhaitent, oui, il y a ce temps qui...
Oui, en fonction aussi des femmes qui sont à l'aise ou pas pour présenter, présenter leur récit.
Parce que ça dure combien de temps un talk? Ils doivent garder la parole pendant combien de temps? Ça ne doit pas être facile.
C'est un monologue de 40 à 45 minutes.
Ah oui, quand même, c'est pratiquement une conférence qu'ils doivent faire.
Ouais, exactement. Où elle parle, généralement ça part de l'enfance jusqu'à...
On a une historique de toute la vie de la personne.
Ouais, c'est un vraiment, cheminement, voilà.
C'est vraiment une rentrée dans la vie privée de la personne, ouais, donc c'est hyper, hyper intime comme échange.
Avec un film, oui, avec un fil rouge aussi toujours de voilà de qu'est-ce que j'ai envie aussi de partager à mon auditoire quoi. Et c'est vrai que le retour que l'on a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute de notre auditoire quoi.
Ouais, donc, ça a l'air vu le nom en tout cas, s'il y a pas de bienveillance ni d'écoute quand on est curieux, on n'est pas très curieux.
Et toi, quel est le talk qui t'a le plus inspiré pour le moment, une rencontre comme ça? Que tu pourrais nous décrire, qui t'ont vraiment marqué, qui t'a vraiment marqué. Parce qu'à Marseille, vous avez reçu combien d'invités pour le moment?
On en a une douzaine. Ouais. Bah, c'est dur d'en choisir un quand même. Hein. Parce qu'à
peut-être
chaque fois,
plusieurs.
C'est très différent. Mais il y en a deux bon, qui m'ont marqué particulièrement. Celui qui m'a beaucoup marqué, c'était Sophie Beau, donc la fondatrice de SOS Méditerranée. Donc, qui s'est déroulé au bunker des Calanques.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai que c'était un moment assez fort parce que déjà, donc, c'est un lieu très proche de la mer. Et elle, donc, elle a parlé de son association qui donc, permet de sauver voilà, des migrants en mer. Et donc, du coup, elle a permis de donner un cadre aussi à tout ça, à reposer les choses de manière très concrète. Donc, c'était vraiment très. Déjà, c'était très. En termes d'information, c'était très instructif. Et c'était très émouvant aussi de voir tout ce qu'elle a pu traverser, les complications qu'elle a pu avoir, les bateaux étaient parfois saisis. Enfin, c'était pas simple, en fait, de réaliser ces missions-là. Et donc, il y a eu énormément de questions aussi sur ce talk. Donc, c'est vrai que c'était un temps vraiment fort. J'ai beaucoup apprécié. Et après, de par ma passion pour tout ce qui est théâtre, cinéma, on a eu une réalisatrice aussi, Charlène Favier, qui a réalisé le film « Slalom ». Qui est vraiment un super film qui parle notamment de l'abus des coachs dans les milieux sportifs sur les jeunes filles. Et donc, elle est venue, elle a partagé son parcours. Et c'est vrai qu'elle déjà, elle avait une vraie capacité à raconter sa vie. Et son parcours est assez impressionnant parce que du coup, elle est autodidacte. Enfin, elle est partie voilà, d'étape en étape. Et son premier long métrage est un succès. Donc du coup... c'était vraiment très inspirant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très inspirant.
Oui, en fait, en fonction des invités, elles sont inspirantes à leur propre manière et pour différentes choses.
Oui.
Par leur courage, leur force, leur créativité, par...
Leur cheminement.
Oui.
Bah, et à chaque fois, c'est toujours beaucoup de travail, en fait. C'est ça qu'on... Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant, parce que bon, après, maintenant, on peut le montrer, mais souvent, on voit le succès, mais on ne voit pas derrière quand même le temps que ça prend. Voilà,
on croit
le temps
qu'on va réussir comme ça, du jour au lendemain, en faisant quelque chose. Maintenant, on essaye, on tente, on rate, on déprime, et puis un jour, ça marche.
Ouais, voilà, c'est un cheminement, c'est beaucoup de travail, quand même, c'est ce qu'on remarque à chaque fois. Beaucoup d'énergie, des rencontres.
En tout cas, ce qui les rassemble, je trouve, c'est la passion qu'elles y trouvent et la passion qui les anime à chaque fois. Et ça me fait penser à un passage d'un livre d'Eckhart Tolle qui m'inspire beaucoup depuis longtemps et sur lequel je reviens souvent. Je vais vous lire. « Demandez-vous s'il y a de la joie, de l'aisance et de la légèreté dans ce que vous entreprenez. S'il n'y en a pas, c'est que le temps a pris le dessus, que le moment présent est passé à l'arrière-plan et que la vie est perçue comme un fardeau ou un combat. » Et je trouve que ça fait écho à ce que nous transmettent ces femmes, c'est la passion, l'inspiration, et que c'est ça, on en ressort avec ça, je trouve, à l'issue de ces soirées, donc ça fait du bien. C'est ce que tu retrouves aussi,
oui,
c'est ce que vous avez envie aussi, j'imagine, de transmettre.
Exactement, ouais. Bah, c'est de rassembler, en fait, fédérer, partager, mettre en lumière une femme déjà, donc qui se sente valorisée, et puis donner du contenu aux autres. Et permettre vraiment de passer un moment ensemble un peu magique. Ouais, moi, à chaque fois qu'on fait un événement, on est contente de l'avoir fait. C'est vrai que ça rebousse le lendemain. Oui, et après aussi, il y a un talk, mais j'ai oublié d'en parler, mais c'est celui de Marie Robert, donc, qui est philosophe. Extraordinaire.
Ah oui, elle
est
très inspirante.
Déjà, il était plus long que... C'était 45 minutes, un peu plus long. Mais elle nous a... En fait, c'est comme si elle avait transmis en même temps de parler de son parcours, qui était très inspirant. Puis, parce qu'elle, pareil, elle a eu plein d'embûches, mais voilà, elle a été très transparente sur tout ce qu'elle a vécu pour en arriver là. donc vraiment brillante, mais en plus de ça, elle a donné une énergie très positive.
C'est vrai qu'elle est très joyeuse très solaire, quand on l'écoute.
Très joyeuse. Et du coup, le lendemain, mais on a une patate, on a l'impression que tout était possible. Et c'est vrai que toutes les personnes qui étaient là, elles ont ressenti tout ça. Mmh. Et ça, c'était assez extraordinaire.
Ça donne envie de le réécouter, de l'écouter, ça. Moi, je ne l'ai pas encore écouté, mais en je
podcast.
Pense que...
Mais il y a le podcast.
Il y a le podcast,
En même temps, philosophe, c'est un très beau métier. Moi, je dis souvent que... la philosophie, pour moi, c'est la mère de toutes les sciences, parce que ça consiste à penser, à réfléchir, à créer des systèmes, et toutes les sciences font ça, et ont une certaine philosophie appliquée à un tel domaine, mais la mère de ça, c'est la philosophie, l'art de penser. Donc, en tant que philosophe, forcément, on doit avoir un parcours assez particulier, assez riche en enseignements, et rien que de raconter ça avec passion, son histoire, c'est hyper instructif.
Il faut l'écouter, c'est très inspirant.
À écouter. Moi, j'avais une petite question. Tu nous parlais justement de passion autour de ces échanges, mais le Curiosity Club, vous êtes bénévole, vous travaillez, comment ça se passe dans les coulisses un peu?
Alors oui, on est bénévole, on a tout un métier à côté, donc on fait ça sur notre temps libre,
quand vous en avez,
on va dire, voilà, on optimise, on est, c'est quoi, c'est slasher, c'est ça le nouveau thème, non,
quand je crois, voilà, oui, je crois que c'est ça, c'est à la mode.
Donc non, du coup, on fait ça sur notre temps libre. Et ce qui est aussi bien parce qu'on n'a pas d'enjeu non plus fort, pas de résultats, parce que forcément on veut que les événements se passent bien, mais disons qu'on n'a pas les mêmes enjeux que dans une entreprise où voilà, on a un poste, une rémunération, etc. Donc ça a des avantages aussi. Et donc du coup, on a tout un métier à côté et qui peut être en lien parfois avec, par exemple, Amandine, elle est dans la communication. Et tout ce qui est stratégie de marque, elle est aussi dans la RSE. Et donc, du coup, c'est elle qui est en charge notamment de la communication, donc qui écrit très, très bien. D'ailleurs, c'est notre plume.
La plume du Curiosity.
Et du coup, qui écrit les posts et qui écrit les mails, et qui décrit souvent, qui donne un avant-goût déjà de la personne qu'on va recevoir.
Un petit teasing, tu disais que justement, vous les connaissez en amont. Bon, nous, c'est un peu ça aussi à la radio, Chloé.
Oui, c'est vrai.
On découvre nos invités à chaque fois de façon un peu plus privilégiée, en amont, à côté. Et on a un temps d'échange un peu plus... allongé que pour nos auditeurs à la radio.
Et donc ce Curiosity Club est féminin. Vous avez fait le choix donc de réunir uniquement des femmes. Est-ce que vous avez aussi envie de le déployer aussi aux hommes? Parce que la dernière fois, lors du dernier événement, c'était mixte.
Oui.
Est-ce que c'est une volonté ou pas forcément?
Alors en fait, effectivement, le Curiosity Club, donc on est en fait c'est une forme de franchise, donc du coup il y a un concept qui a été donc créé par Margot Hammer, et du coup le concept de base c'est de réunir des femmes, de rester on va dire entre femmes. Alors dans le but, pourquoi hein, c'est parce qu'il a été observé finalement dans ces soirées-là, c'est que quand on est entre femmes, on a peut-être plus de liberté dans la prise de parole. Soit de la talkeuse, mais surtout après dans les échanges, en fait. Ça crée un autre climat, un peu de, on va dire, de bienveillance et qui facilite finalement la parole et le lâcher prise sur certains sujets. Mais pour autant, l'idée aussi, c'est de pas... on n'est pas non plus... Et puis en plus, bon, ça a évolué aussi depuis en 2019, c'était déjà... Enfin, 2015, je pense que c'était nouveau. Là, maintenant, depuis un an, moi, j'observe qu'il y a beaucoup plus d'événements pour les femmes, autour des femmes. Donc, du coup... ça se diversifie un peu plus. Et donc du coup l'idée c'est quand même une fois par an d'avoir un événement avec mixte, et donc du coup ça permet d'avoir une jauge un peu plus importante. Généralement les événements c'est 40-50 personnes, quand c'est mixte on peut aller jusqu'à 80.
Mais c'est vrai qu'on on ressent une certaine bienveillance féminine. Moi je me rappelle que j'avais participé aussi à un déjeuner avec le Curiosity Club de Paris avec une artiste peinte, c'était Solène Kerlo, c'était en mars dernier, c'était autour d'un déjeuner, on était 10 femmes, et c'est vrai que ça, tout de suite ça crée une intimité entre nous, et peut-être qu'il y a des questions qui ne seraient pas posées s'il y avait des hommes autour de la table, je ne sais pas, mais en tout cas ça avait créé une ambiance très intimiste, et c'est vrai que c'est aussi un format le déjeuner qui m'avait beaucoup plu. Alors, je ne sais pas si à Marseille, vous l'avez développé, si c'était uniquement des soirées pour le moment.
Alors, pour le moment, oui, ce ne sont que des soirées. Après, idéalement, ce serait formidable si on pouvait aussi faire des déjeuners. Mais pour ça, voilà, faut dès qu'on identifie un lieu, alors on a des idées, mais et arriver à... En fait, ce qu'il faut, c'est aussi arriver à avoir une régularité. Donc en termes de temps que, voilà, qu'on pourrait allouer, comment on pourrait s'organiser pour faire ça. Mais oui, c'est un projet de développement. Et le lieu, en plus, sur Paris, est sublime.
Le Speakeasy.
Ouais. C'est un bel endroit.
Ouais, très beau. Ouais. Passage Choiseul dans le petit restaurant perché de l'Alma. Ouais, très sympa. Et le Curiosity Club à Marseille, il n'a pas de maison encore, comme justement le Curiosity Club à Paris. Est-ce que vous avez envie de créer comme ça un lieu pour ce club à Marseille, ou vous êtes à la recherche d'un lieu où...
Alors, c'est une idée. Pour le moment, on n'a pas encore investigué. Après, ça peut être des lieux qui existent déjà, qui voudraient s'associer à nous, ou, enfin, ouais, qui nous hébergeraient en quelque
des
sorte.
Des tiers-lieux, ouais, pour des événements ponctuels.
Mmh. Ouais, qui auraient du sens par rapport à nous, ce qu'on propose, et eux, ce qu'ils proposent, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, on arrive en fin de première partie. Alors, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de proposer à notre invité de choisir une musique qui l'inspire. Alors, je te laisse, Johanna, nous présenter cette chanson. Et on va l'écouter et on se retrouve en deuxième partie d'émission.
Oui, alors moi, j'ai choisi une chanson que j'aime bien qui s'appelle Doudou. Et que je trouve... En fait, comme j'ai été au Brésil... Enfin, j'ai fait une traversée de l'Atlantique en bateau, je suis arrivée à Rio, enfin voilà, c'était le rêve, en voilier. Wow. Et donc du coup, j'adore le Brésil, j'adore Rio, je trouve ça une ville magique avec la samba, enfin il y a un truc qui se passe, quoi. Et donc du coup, bah, toutes les musiques un peu, on va dire, dans des rythmes qui me rappellent ça, me plaisent. Et donc du coup, cette chanson que j'ai choisie, bah, je la trouve très agréable à écouter et voilà.
On va s'ambiancer sur Radio Galère ce soir, en ce début d'été. Belle écoute.
Thank you. soir avec Marin qui est en régie, avec Arthur et Anne en studio avec moi. Et nous recevons ce soir le Curiosity Club de Marseille avec Johanna, le club qui a pour ambition de donner la parole à des femmes inspirantes et inspirées, à une communauté engagée autour d'une valeur commune, le pouvoir de la curiosité. Et justement, en parlant de la curiosité, parce que c'est quand même au cœur de ce club, et qui, je trouve, est très intéressante et essentielle dans notre vie, dans notre société, et qui est malheureusement peu abordée, par exemple, à l'école, et qui est pourtant si importante, puisque ça nous invite à s'intéresser à l'autre, et ce qui est, à mon avis, primordial dans notre société aujourd'hui. Comment vous arrivez du coup à transmettre cette curiosité à ces femmes que vous recevez à travers ces invités qui viennent donc pour ces événements?
Alors pour le transmettre la curiosité, disons déjà que souvent donc les femmes qui viennent sont quand même curieuses, je pense, de découvrir un parcours. Donc c'est ce qui nous rassemble et qui les caractérise. Donc c'est une valeur que l'on porte. Et on le transmet du mieux qu'on peut, justement par le parcours et toute la diversité de des profils qu'on va recevoir. Et puis le temps de questions aussi qui leur permet d'aller plus loin et de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de savoir, que je n'ai pas forcément pu découvrir lors du temps d'échange. Et après, c'est vrai que j'ai fait une petite recherche sur la curiosité, sur l'étymologie du mot.
Ouais, ouais.
Et l'étymologie latine, au final, ça veut dire donc la curiosité, c'est prendre soin d'eux. Et donc, du coup, quelque part, je trouve que ça fonctionne assez bien parce que nous, on prend soin finalement de quelque part de donner de l'information, on prend soin de mettre en lumière des parcours et de permettre à des femmes d'être inspirées et de découvrir en fait et de rester dans un peu ce qu'on appelle la sororité, c'est toujours dans la bienveillance et finalement d'être fière de se dire que d'autres femmes ont réussi à faire telle ou telle chose et d'être... Après chacun le prend à sa façon quoi. Chacun va avoir une lecture différente finalement de la soirée en fonction de ses propres questionnements, enjeux, etc. quoi.
De son propre spectre de vision, de son propre parcours, de son propre milieu professionnel, etc.
Oui, exactement.
Et toi, tu es par exemple quelle curieuse dans la vie? Parce que tu fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui te passionnent, et la curiosité, quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Quelle curieuse es-tu?
Curieuse fantasque, ou curieuse solaire aussi, parce que je suis quand même assez joyeuse. Donc, non, moi je suis très curieuse des gens surtout. J'adore savoir les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment.
C'est pour ça que tu as choisi de faire des événements où tu invites des personnes qui parlent d'eux.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Non, j'adore faire des événements, l'événementiel, c'est rassembler et en plus la découvrir un parcours, j'aime bien.
Et durant ces soirées, quel est le public que vous recevez de manière générale? Est-ce que vous avez remarqué un certain fil conducteur durant ces soirées depuis que vous avez commencé ou pas forcément
Oui, alors c'est des femmes qui sont plutôt dans la vie active, mais qui ont entre, je dirais, 15 à 77 ans. Parce qu'il y en a qui viennent avec leurs filles, qui sont adolescentes. D'autres qui viennent avec leur mère, donc qui peuvent... Enfin, on a donc des fois trois générations.
Wow.
Donc on a d'ailleurs trois générations qui reviennent régulièrement, donc avec la mère, de la mère, de la mère, donc du coup ça c'est super, et à chaque fois c'est en plus des métiers différents, on peut avoir de corps médical, des gens freelance, des gens dans le milieu artistique, enfin c'est assez varié. On va dire que le public qu'on n'a pas trop, c'est les étudiants, on n'a pas trop la tranche entre 20-30, un peu moins de 30, ouais. On aimerait justement s'ouvrir à ce public en ayant peut-être des places, un tarif aussi plus avantageux, et avoir aussi peut-être, c'est vrai, des femmes qui sont pas forcément dans la vie active ou pouvoir permettre de donner ce contenu au maximum de personnes quoi. Voilà.
Parce que c'est des contenus très inspirants qui peuvent montrer que même si on n'est pas dans un parcours classique, on peut toujours réussir à faire des choses magnifiques. Et faire des très beaux projets. Après, les étudiants, c'est compliqué. Hein. Dans cet âge-là, il y a les études, il y a les fêtes avec les copains, il y a rentrer à la maison. Et c'est pas facile justement d'être curieux et de faire ce qu'on veut. Il y a, les études sont très chronophages, mine de rien, moi qui en sort. J'ai plus de temps maintenant que quand j'étais dans mes études, je pense.
Le grand curieux que tu es aujourd'hui ne l'était pas forcément avant.
Il était fatigué à la fin de sa journée de cours, fatigué après avoir révisé. Donc pas le temps d'aller vadrouiller pour être curieux comme je suis aujourd'hui.
Parce que vous communiquez sur quel réseau justement par rapport à ces événements? Pourtant, c'est des réseaux qui sont accessibles pour cette tranche d'âge, quand même.
Oui,
vous êtes
oui,
beaucoup présent sur Instagram.
On a, en fait, Instagram principalement. Après, on a une newsletter. Enfin, il y a une newsletter nationale qui est écrite d'ailleurs par Sophie Astrabi, qui est une écrivaine et qui est très drôle, qui a une plume très... qui sait bien tourner les sujets. Et donc via la newsletter, via aussi nous un mailing qu'on envoie, on permet en fait de maintenir notre communauté qui vient déjà en fait au courant de nos événements. Et après, sinon, pour ouvrir, c'est surtout Instagram quand même, hein, majoritairement. Des fois on a des petits encarts dans la Provence, mais après Instagram c'est pas simple, hein. Il y a tellement de contenu que
ouais, c'est
franchement pour être visible
ça va peut-être venir à force de toucher trois générations à chaque événement. Ils vont grandir et s'il y a des personnes de 15 ans qui commencent à connaître, ils risquent de venir, de continuer à venir, de parler à leurs camarades.
Après c'est le bouche à oreille et aussi c'est vrai beaucoup aussi le lieu qui attire.
Ouais, forcément.
Voilà, le lieu, c'est un vrai. Enfin, il y a la thématique, mais le lieu permet aussi d'attirer de nouvelles personnes. Après, à savoir que c'est souvent 50% des personnes reviennent en fait à nos soirées, quoi.
Ah bah moi, je vais venir.
À toutes les soirées. Moi aussi, ça me donne envie, mais bon, il va falloir que j'attende la prochaine soirée mixte.
Mixte, oui. Et donc, on a parlé de différents formats que vous avez au club, donc les podcasts, les articles via la newsletter. Et j'ai vu aussi qu'il y a un livre, le livre « Je suis dans la peau de 20 femmes fascinantes », qui me fait d'ailleurs penser au livre « Femmes d'art » de Marie-Stéphanie Servos, que j'avais rencontré lors du déjeuner, qui a le podcast « Femmes d'art » très intéressant et qui, elle, met aussi en lumière un certain nombre de femmes artistes qui ont ouvert la voie sur... plein de choses. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce livre ?
Oui, alors c'est un livre assez bien fait, parce que du coup c'est un portrait, voilà, il y a 20 femmes, donc il y a une illustration qui est bien faite, et un descriptif qui est fait donc du coup par Sophie Astrabi, qui a une façon de raconter qui permet de retracer de manière assez... humoristique en fait le parcours de ces femmes. C'est des femmes plutôt emblématiques, il y en a qui sont connues, moins connues, il y a Marie Curie par exemple dedans, donc c'est au travers de l'histoire, quoi. Donc c'est pas forcément des femmes qui sont encore en vie, mais ça permet de découvrir des femmes qui avaient été un peu oubliées, et certaines qu'on connaît, mais on connaît pas leur parcours, quoi.
Oui. Voilà. Redonner la place qui leur est due.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais, exactement.
Donc il va y avoir normalement aussi une suite. Donc on a eu des bons retours.
Donc si on veut le commander, enfin c'est possible à partir du site internet, j'imagine.
Oui,
du
tout à fait. Soit via Instagram, on peut demander. Sinon sur le site internet, il est en vente aussi. Il me semble au Speakeasy.
Oui, Speakeasy, il y était. Oui.
Ouais. Et non, moi c'est un cadeau que j'ai fait à Noël, notamment.
Oui, c'est vrai.
Pour la famille,
bon,
ça a été bien apprécié. Ouais. Ouais. C'était sympa.
Et du coup, les prochains événements, donc cet été, il n'y en aura pas. Ça sera pour la rentrée, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en parler ou tu ne veux peut-être pas trop spoiler
Alors, je peux donner des thématiques, mais voilà, l'idée, c'est qu'on essaie de garder ça un petit peu dans le mystère. Et,
le suspense.
Voilà, le suspense. Donc, on fait les événements, idéalement, on essaie d'en faire un tous les un mois et demi, deux mois.
Oui.
Et on fait une trêve l'été, parce que du coup, il y a les vacances et c'est pas forcément le meilleur moment, il y a les soirées, etc. Et donc, du coup, on fera un premier événement normalement début septembre.
D'accord.
Donc là, ce sera plutôt l'univers. Alors après, si j'en dis, c'est trop facile de deviner. Mais ça va être l'univers complètement différent de celui qu'on a vu dernièrement. Et après, on en a un autre aussi en octobre autour donc, de la peinture, plutôt d'une femme peinte.
Waouh, génial. On a déjà hâte. Parce que donc vous avez envie, parce que là pour le moment vous avez une invitée tous les deux mois. Est-ce que vous avez envie d'en avoir plus ou pour le moment ça va être ce format
pense pour l'année. On va rester, puisque comme c'est vrai que ça reste comme une activité bénévole, pour que ce soit, et qu'on garde la qualité quand même des événements, je pense qu'un tous les deux mois, c'est bien. Et après, si on peut effectivement proposer un autre format, comme les déjeuners, ce serait une idée qu'on a, quoi, un projet.
Trop bien, à suivre avec attention. Moi, j'avais une petite question, parce que justement, tout à l'heure, tu nous parlais de la présence de l'intergénération dans vos événements. Et je me demandais, est-ce que tu voyais justement du savoir qui se transmettait de personnes âgées à personnes moins âgées, et est-ce qu'il y avait une dynamique intéressante par rapport à ça au sein de vos événements?
Oui, bah déjà il y a un public qui a une grande qualité d'écoute quand même, donc ça c'est assez intéressant, une grande capacité de concentration et d'écoute. Et dans les questions... c'est intéressant d'avoir l'intergénérationnel parce que je pense qu'en fonction de là où on en est dans sa vie, on n'a pas forcément la même vision, le même recul et les mêmes questions. Et la même façon aussi d'accueillir l'information. Et du coup, ça se ressent bien. Et après, il y a des échanges même entre nous, parce que l'idée aussi, c'est de rencontrer d'autres femmes, même si on n'est pas dans un club de réseau. L'idée, c'est pas de faire du réseau, du business, pas du tout. Hein. Ouais. Mais par contre, on peut très bien rencontrer, se faire des amis potentiels, ou s'ouvrir à d'autres personnes. Hein. C'est aussi l'objectif aussi pour certaines. Parce qu'on a des fois des personnes qui, de plus en plus, qui viennent et qui sont seules et qui connaissent pas forcément encore de personnes à Marseille. Donc, c'est aussi un moyen de faire connaissance et de se lier peut-être d'amitié avec certaines personnes. De créer des liens, en fait, hein, des synergies. Et c'est vrai qu'après, dans les échanges, c'est là où on voit que peut-être une femme qui a un vécu différent, plus important, va avoir un autre regard sur ce qui a été dit. Et du coup, ça, c'est hyper enrichissant parce que ça permet de prendre du recul souvent, quand même.
Bah oui, parce les mœurs ont changé d'année en année. Je suppose que une jeune femme d'aujourd'hui, c'est pas la même vie qu'une jeune femme d'il y a 50 ans.
Ouais, et puis aussi sur la pression qu'on peut se mettre, la pression sociale, réussir, de trouver sa voie. Je pense qu'en fonction de l'âge que l'on a, du moment dans lequel on est dans la vie, on va peut-être pas avoir de recul en fait par rapport à ça. Et qu'une femme d'un âge plus avancé va peut-être dire voilà, il faut prendre le temps, enfin va donner avec plus de sagesse. Des conseils ou sa vision, et du coup c'est intéressant, moi je trouve, ça permet de prendre du recul. Et surtout ce qu'on s'aperçoit, après c'est peut-être moi qui ai ce ressenti là, mais c'est que quand même ce qui compte au fond, c'est le contenu, quoi. Donc finalement, même si on est dans un monde un peu, on dit superficiel, de réseau, de ci, de là, quand on voit les gens vraiment, quand même ce qui est important, c'est le fond, plus que la forme, en fait, ou que la personne soit connue ou non. Enfin, c'est vraiment le...
Ouais, la sagesse, il n'y a pas besoin d'être connue pour en
non,
avoir.
Non, voilà. C'est des profils plutôt avec vraiment du contenu, un vrai parcours. Et c'est ça qui intéresse quand même beaucoup. Et en fait, quel que soit, finalement, bon, tout le monde est inspirant, en fait, en quelque sorte, quoi. Le tout, c'est comment, voilà, je mets en avant ce que j'ai fait, comment je partage, les échanges que je...
Et tout le monde est inspirant, du coup. Vous avez eu des invités aussi d'âges différents. Est-ce que vous avez eu des invités très jeunes avec une expérience qui peut être riche, mais qui pas d'une durée très longue, mais qui peut être inspirante aussi à sa manière, par son parcours, sa vision de voir les choses?
Oui, Emma Gongora, donc la vice, elle est, je pense, 24 ans.
24 ans.
Si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu plus. Je n'ai pas une super mémoire là-dessus, mais, oui, elle a, du coup, tout ce qu'elle nous a raconté, en fait, la rigueur de l'entraînement, la compatibilité, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, tous les sacrifices qu'on peut faire dans le but d'atteindre son objectif, c'est rare quand même.
Il faut avoir une sacrée volonté pour être sportif de haut niveau.
Oui, ouais, ouais. Et puis tous les anecdotes qu'on a eues, non, c'était vraiment très intéressant. Ouais. Et on ne se rend pas compte, en fait, souvent aussi, des fois, de ce que ça nécessite ou ce que ça implique de faire telle ou telle activité sportive.
Tu as peut-être un exemple à nous partager qui te vient en tête pour donner un peu plus de contexte.
Alors après, je ne sais pas si je vais bien le raconter, parce que c'est moi, mon souvenir, mais elle nous avait raconté, par exemple, qu'elle est pesée avant chaque combat, et que du coup, il faut qu'elle respecte un certain poids. Mmh. Et à un moment donné, elle était pas, le poids n'était pas le bon. Donc, il y a une deuxième pesée ensuite pour combattre. Et là, elle est allée courir en plein cagnard. Elle n'a pas mangé pendant... Parce que oui, c'est la veille, elle se pesait, puis elle se repesait. Donc, elle n'a pas mangé. Courir en plein cagnard, elle s'était mis une couverture de sudation. Elle a dû perdre peut-être... En 24 heures, je ne sais pas, 4 ou 5 kilos.
Ah oui.
Voilà. Alors peut-être que j'extrapole un peu, attention. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on se disait, ah ouais. Ah. Et puis après, en plus, elle a combattu et elle a gagné. Enfin, donc derrière, elle a dû, en plus, avoir toute l'énergie nécessaire pour remporter le combat. Donc en termes de mental, gestion du corps, enfin tout ça, c'est...
On joue avec les limites, ça.
Ça, c'était impressionnant. Moi, ça m'a impressionné.
C'est impressionnant, ouais.
La pugnacité, la ténacité... l'envie d'aller au bout d'un projet, c'est vrai qu'en fait, ça ne dépend pas forcément de l'âge, quoi. Des femmes très jeunes peuvent nous inspirer à leur manière. C'est ça qui est chouette aussi.
Ah oui, non, l'âge... Non, l'âge, je pense que c'est pas...
Pas un critère, en tout cas pour sélectionner, pour choisir vos invités.
Non.
Et est-ce qu'on, si on a envie de suivre l'actualité de ces femmes que vous avez reçues, est-ce qu'on peut... échange avec elle, est-ce que vous gardez le lien? Bon, alors certaines de vos invitées sont des amies, mais est-ce que vous gardez le lien? Est-ce que...
Alors, on essaie, oui, au maximum. Après, c'est pas toujours simple. Plus souvent, elles ont des vies très chargées, et nous aussi d'ailleurs, tout le monde a des vies très chargées. Donc du coup, mais oui, on essaie de garder le lien avec les talkers. Et sinon, sur notre Instagram... pour notre communauté, on essaie de relayer au maximum nos événements et de donner le plus de contenu pour garder du lien aussi avec, avec les personnes qui viennent à nos événements. Quoi. Et si, dès qu'on peut aussi, des fois sur Instagram, mettre en valeur ou avec la newsletter aussi du Curiosity Club Group, on met en avant des succès de nos talkers, par exemple, ou des nouveaux projets. On essaie de l'utiliser en fait, pour le mettre en avant quand on peut... des projets qu'elles ont elles-mêmes menés ou aboutis, quoi.
Oui, voilà. on a reçu telle personne là et à la suite, elle a fait ça aussi. Et
voilà, on essaie de le faire, quoi. Dès qu'on peut, on essaie de le faire, voilà.
Tu nous avais aussi parlé, il me semble qu'il y a déjà les podcasts que vous faites à chaque événement qui sont disponibles sur votre site, c'est ça?
Oui, on peut réécouter, effectivement.
Et sur l'Instagram, tu nous avais parlé de vidéos, je crois, aussi. Il y a des vidéos qu'on peut voir pour s'informer.
Oui, alors c'était pendant le confinement. Alors pas le confinement de 3 mois, mais celui qu'on a eu. Enfin après, on pouvait plus faire d'événements pendant un petit moment.
Et oui.
Donc du coup, on s'est dit comment on peut nous continuer à rencontrer des femmes inspirantes pour pas perdre, se faire plaisir, et puis continuer à garder le lien et à donner du contenu à notre communauté. Donc on avait créé la Minute Curieuse. Donc c'est des petites vidéos d'une minute trente, assez rapides, où on posait 5-6 questions. Autour de la curiosité, et du coup on a eu pas mal de vidéos qu'on peut retrouver sur notre Instagram avec des profils. Il y en a qu'on a eu qu'on a pu retrouver dans nos événements, comme Juliette, qui est photographe.
Juliette à qui on fait un petit clin d'œil ce soir, qui fait une exposition.
Des talkers qu'on avait déjà reçus ou qu'on a reçus ensuite, puisque Delphine Truchet a fait la vidéo et ensuite elle est venue faire un talk. Donc ça nous a permis aussi de préparer un petit peu
de
la
faire
suite.
Un icebreaker de vos prochaines invitées.
Voilà.
Très bien. Et du coup, tous vos événements, ils sont publics ou vous travaillez que avec le grand public ou vous travaillez aussi avec des collectivités, des entreprises, d'autres acteurs? Parce que l'événementiel, ça intéresse beaucoup de choses. On a eu des festivals à Marseille il n'y a pas longtemps, on a eu le Delta Festival, le Summer Festival, le Mars Attack, on est plutôt gâtés. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de faire un événement peut-être pour vous? Vous y avez réfléchi, vous avez envie?
Alors on n'y a pas encore réfléchi. Disons que nous, au niveau de Marseille, ça reste des événements, pas privés, mais payants. Donc du coup, il faut prendre sa place Oui, puisque du coup, il y a un traiteur, donc c'est nécessaire en soi. Après, pourquoi pas ouvrir, faire différemment? Mais c'est vrai que ça nécessite d'y réfléchir.
Oui, et puis peut-être sur le format que vous avez, qui a été lancé au début, ce ne sera peut-être pas la même chose.
Oui, c'est ça, ce sera peut-être différent. Effectivement. Après, il y a différents. Là, on sent qu'il y a un vrai
engouement,
que ça repart, qu'il y a plein de possibilités. Donc, oui, je pense que là, ça, voilà, on est sur une bonne mouvance, quoi.
Oui, c'est ce
Il y a un petit temps de. Je trouve qu'il y a eu un temps avant que ça reprenne, quand même, personnellement, parce que ce qu'on a observé. Et là,
Après le Covid, tu veux dire
Il y a eu tout de suite après où les gens avaient envie de faire des événements, puis après, ça s'est un peu affaissé.
Il y a peut-être un engouement aussi sur le thème, le fait que ce soit de mettre les femmes en valeur. J'ai l'impression que quand même c'est quelque chose qui a de plus en plus de poids dans notre société, entre les luttes féministes, les luttes contre le patriarcat, les inégalités au sein du monde professionnel. C'est important quand même de déconstruire ce qui a été construit pour mieux reconstruire derrière. Je pense que vous participez clairement à mettre la pierre à l'édifice dans tout ça.
Oui, c'est l'idée. Il y a pas un créneau à prendre, mais c'est vrai qu'il y a un vrai. En ce moment, oui, effectivement, les projecteurs sont sur les femmes et effectivement il y a des possibilités sur ces sujets-là, quoi.
Même là aujourd'hui je voyais un article sur le gouvernement qui justement discutait de la parité au sein des gouvernements et ce qui en ressortait c'était que les postes les plus régaliens ils étaient majoritairement tenus par des hommes. Donc d'un côté il y a le discours de on est quand même paritaire, c'est la mission d'être au gouvernement qui importe le plus. D'un autre côté, tu as le discours il y a des postes qui sont plus prestigieux de base, il faudrait aussi mettre la parité dedans. Donc c'est beaucoup de questions au cœur des débats aujourd'hui.
Et en tout cas, c'est la volonté du club de curiosité à Marseille de mettre en avant ces femmes inspirantes et qui nous inspirent aussi à leur niveau. Nous arrivons à l'issue de cette émission et
déjà
ça passe très vite. On te remercie beaucoup Johanna d'être venue. Peut-être qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau avec ton équipe au complet à la rentrée en perspective des événements que vous avez prévus. Merci beaucoup, on vous souhaite une très belle soirée. Et à très bientôt.
À bientôt.
Merci. Au revoir.